La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
À l'heure où nous parlons, aucun vainqueur ne se dégage clairement des élections législatives en Israël.
Oui, pas de vainqueur clair, c'est le titre de une du quotidien gratuit plutôt pro-Netanyahou, Israël Hayom ce matin, avec comme photo d'illustration deux clichés côte à côte des rivaux Benjamin Netanyahou, le premier ministre sortant, et son adversaire centriste, le général Benny Gantz, tous deux dans la même position, en train de regarder leur montre. Et c'est vrai qu'elle est longue, cette attente, cette incertitude pour les journaux israéliens. Le Jérusalem Post confirme l'impasse, l'impossibilité, malgré, nous dit-on, 90% de bulletins dépouillés selon des résultats non officiels, de départager la droite et la gauche. En gros, à moins que cela ne se précise dans les heures qui viennent, on est bien forcé de se rendre compte que cette deuxième élection en 5 mois ne va permettre ni à Netanyahou ni à Gantz d'obtenir une majorité assez solide pour former un gouvernement. Encore raté, nous dit le Times of Israel. Likoud et Alliance centriste bleu et blanc sont au coude à coude. Ça semble devoir se jouer à un ou deux députés élus en plus pour l'un ou pour l'autre, soit entre 31 et 33 sièges à la future Knesset.
Mais au moins, ce flou persistant a ceci de pratique, Camille, qu'il permet à chacun de tirer les conclusions qui l'arrangent.
Et c'est particulièrement vrai pour Haaretz, le journal de référence de la gauche israélienne. Très critique, c'est le moins qu'on puisse dire, envers l'actuel Premier ministre, sans attendre des résultats plus fiable. Haaretz sort donc déjà toute sa panoplie de titres choc et d'analyses définitives, en forme, il faut bien le dire, d'auto-persuasion. Il y a l'embarras du choix, du prudent, peut-être, mais juste peut-être, l'ère Netanyahou est en train de prendre fin. Au très péremptoire, le sort qu'avait jeté Netanyahou à Israël est rompu. En passant par le très imagé, Bibi le magicien est arrivé à court de lapins à sortir de son chapeau. Je passe sur le portrait de Benny Gantz, dépeint comme ce général à la retraite qui vient de renverser Netanyahou. L'effet de réalité est bien là, mais rappelons-le, Haaretz va un peu vite en besogne, même s'il semble de plus en plus plausible que Netanyahou ne devrait pas arriver à trouver assez de soutien pour former un gouvernement.
Donc on se retrouve à peu près dans la même situation de blocage qu'il y a 5 mois, Camille.
Et oui, c'est à peu près ça, et en attendant les résultats définitifs, chacun, Gantz comme Netanyahou, s'empresse ce matin encore de faire comme s'il avait gagné, appelant ses alliés potentiels à entamer les négociations. Cité par Arutz Sheva, le groupe de médias affilié au mouvement sioniste religieux, Benjamin Netanyahou assure qu'il va former un gouvernement large, fort et surtout sioniste, en opposition aux partis arabes qui, eux, devraient s'allier à Gantz et qui sont présentés comme anti-sionistes. Mais l'enjeu véritable, c'est la position que va adopter l'ancien ministre de la Défense et ancien allié de Netanyahou, Avigdor Lieberman. Il est devenu l'un des plus féroces adversaires du Premier ministre et en fin de soirée, hier, celui qui est clairement en position de faiseur de roi, appelait à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui rassemblerait le Likoud, les Bleus et Blancs et Israël Beitenu, le parti de Lieberman. C'est la seule solution, dit-il à Arutz Sheva. Avigdor Lieberman, le laïc acharné, exclut tout de même d'emblée toute participation des partis religieux, plus ou moins ultra-conservateurs alliés avec Netanyahou à ce gouvernement. Le faiseur de roi semble donc pour le moment refuser de choisir un vainqueur, mais vu la détestation qu'il cultive pour l'actuel Premier ministre, il paraît inconcevable que Netanyahou puisse rester à la tête d'un éventuel gouvernement d'union nationale. Au final, ça pourrait bien donner raison à Haaretz et à ses rêves de voir prendre fin, une bonne fois pour toutes, l'ère Netanyahou en Israël.
Et puis alors, c'est une sorte d'épidémie, puisqu'il y a un autre pays qui va devoir retourner aux urnes, Camille, faute de majorité franche, c'est l'Espagne.
Oui, les élections législatives anticipées ont été fixées hier au 10 novembre, mais attention, en Espagne, ce sera la 4e fois en 4 ans que les électeurs vont être appelés aux urnes. Il fallait donc que l'impasse soit totale pour qu'on doive se résoudre à une telle extrémité. Et pourtant, c'est bien le constat qu'a fait le roi Felipe VI, hier, après avoir reçu tous les chefs de parti, aucun n'est en mesure de fédérer une majorité. Il faut donc retourner aux urnes encore et encore. Constat d'échec, nous dit l'éditorial d'El País, constat d'irresponsabilité, surtout de la part de partis politiques, incapables de faire primer l'intérêt général du pays sur leur posture et leurs ambitions. Bonne chance à eux, dit El País, pour expliquer aux citoyens espagnols qu'en 5 mois, ils n'ont pas trouvé le moyen de se mettre d'accord.
Et s'il y a une personnalité qui, plus que tous les autres portent la responsabilité de cet échec, c'est bien le leader socialiste Pedro Sanchez.
Alors ça c'est l'avis général, hein. Comme ici dans le quotidien royaliste ABC. Sanchez, vainqueur, même sans majorité, des dernières élections, n'a pas réussi à faire équipe avec la gauche radicale de Podemos. à moins qu'il n'en ait jamais vraiment eu l'intention. C'est donc l'analyse portée par Manuel Martin dans ABC. Sanchez, depuis 5 mois, a toujours voulu en arriver là, dans l'impasse qui justifierait de convoquer une 4e élection. Car ce nouveau scrutin pourrait bien lui permettre de renier son cap à gauche de la dernière campagne, d'en finir avec l'illusion d'une entente possible avec Podemos, pour cette fois pouvoir, sans passer pour une girouette ou un opportuniste, pactiser avec les centristes de Ciudadanos, ce qui semblait impossible il y a 5 mois. En cela, Sanchez, depuis le printemps, se serait livré à du pur théâtre en mettant en scène des tractations avec Podemos, sachant très bien en fait qu'il ne voulait pas qu'elles aboutissent. Du mauvais théâtre, précise Enric Juliana dans la Vanguardia catalane, que la prestation délivrée par Albert Rivera, également le chef de file de Ciudadanos, après avoir fait campagne au printemps en s'alliant avec le Partido Popular conservateur et avec l'extrême droite de Vox dans un pacte tout sauf Pedro Sanchez. Voilà à présent le même Rivera qui se tient prêt à rejoindre le même Sanchez après les prochaines élections. Ciudadanos rentre dans le rang, conclut Enric Juliana. Le parti se conforme à la consigne d'alliance entre centre-gauche et centre-droit voulue par Manuel Valls et Emmanuel Macron à l'échelle européenne. À se demander si quelqu'un se soucie encore de l'avis des électeurs espagnols, dont tous les journaux s'accordent à dire qu'ils sont écœurés et qu'ils pourraient s'abstenir massivement le 10 novembre prochain.
Merci beaucoup Camille Magnard.